Lundi, le 17 septembre 2018, mon nom est Claude Blas. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission Les Voix de Service Magazine, qui, je vous le rappelle, a comme mission de vous faire la lecture, sortez de blog sur différents sujets. Alors, vous avez vu la température ce matin, pour ceux qui sont déjà sortis, eh bien, il fait très beau et on espère avoir ces températures encore un peu. Voilà un petit bout de temps quand même. Alors, à vous d'en profiter encore une fois aujourd'hui. Je vous présente tout de suite nos collaborateurs de ce lundi matin, en commençant tout d'abord en saluant Roger Roy.
Bonjour, bonjour Claude.
Vous allez bien?
Bonjour tout le monde. Très bien, oui, oui. Non, avec la... le temps dont vous venez de parler, mon cher.
Il faut en profiter.
Oui, c'est ça.
Alors,
apparemment,
quel sujet?
D'après un autre animateur, là, ça ne durera pas.
OK.
Parce que le froid, ça arrive le 21 septembre.
D'après notre collègue, oui, ce matin, oui. Ce qu'il nous a dit, hors d'onde. OK, sujet ce matin, Roger.
Oui, alors je vous parle du bulletin de l'actualité. Ils analysent à tous les ans, parce que ça fait la deuxième année qu'ils le font, la planification des divers ministères du gouvernement du Québec. Ils ont donné un beau E. Un des ministères les plus importants, le ministère de l'Éducation.
Est-ce que E correspond à la plus basse note?
Échec.
Ah, c'est pas excellent.
Non. Par ailleurs, le 14 octobre, c'est la légalisation du pot.
Oui.
Dans un mois précisément. Je vous en parle. À peu près tout ce que vous avez voulu savoir.
C'est le 17 octobre.
Oui. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le pot sans jamais le demander. Là. Je vous en donne des...
Je suis pas sûr, là, mais...
Mais pas tout. Un petit peu. Quelques éléments.
Question de curiosité.
Ben, moi, je prendrai des notes.
Merci beaucoup, Roger. Alors, Serge, oui. De votre côté, comment allez-vous?
De mieux en mieux, de jour en jour, et ça, à tout point de vue.
Ah, voilà.
Et dans tous les domaines de ma vie, jusqu'à la mort, qui sera la libération. C'est de toute beauté, c'est une perte de vue.
Alors, beau positivisme, quand même.
Voulez-vous tester vos connaissances ce matin? Eh bien, dans le domaine... Écoutez, là, il y a quelque chose qui se passe. Connaissez-vous bien vos droits? On avait commencé à aborder le sujet la semaine dernière.
Oui.
Et les gens disent, Serge, pourrais-tu nous donner plus de détails? Eh bien, cette semaine, on va entrer dans les détails.
Ah, d'accord.
C'est bon?
Vous avez reçu plusieurs courriels et textos.
Ah, mon écran était... Bon. Alors, donc, on va aller au niveau des garanties, des contrats, la politique d'exactitude des prix, le crédit et l'endettement, les recours juridiques.
Alors, ayez un crayon et un papier à côté de vous.
Ou la revue Protégez-vous.
Ou la revue Protégez-vous, un des deux. De mon côté, un article que je lirai en deux temps, donc dans les deux portions de l'émission. Et c'est un article que j'ai retrouvé sur le site de lapresse.ca et qui nous dit « Peut-on enregistrer son médecin quand on consulte? » Le savez-vous?
Non, je sais
Alors,
pas.
Alors, je vous donnerai tous les détails un peu plus tard.
On devrait se rappeler de ce qu'il dit.
Exactement, c'est vrai. Mais vous allez voir, il y a quelques points là-dedans qu'il faut prendre en considération. Alors, on vous revient dans quelques instants avec Roger, son premier article. Alors, Roger, vous commencez par...
Êtes-vous prêt pour le pot?
Ah, c'est ça. J'avais hâte.
Ouais. Il y avait un peu d'enflure dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était juste pour vous allécher. Vous ne saurez pas tout sur le pot. Là.
Ah. Ah.
Quelques éléments, là, quand même importants.
Merci de nous le confirmer.
Bon, le Pocheux du Québec, la Société des alcools, est prête. Mais la Société des alcools vendra le pot dans des boutiques distinctes de celles où elle vend son vin, par exemple, ou sa liqueur. Ces boutiques sont très différentes de ce que vous allez rencontrer à la SAQ, dans les succursales. Un gardien de sécurité est à l'entrée et assure qu'aucun mineur n'y entre, même accompagné de ses parents. Les clients arriveront ensuite dans une zone d'information où des conseillers feront de l'éducation sur le cannabis, ses effets et ses risques. Le texte ne dit pas si le type revient une dixième fois, si on va encore lui faire le même. En tout cas, c'est un autre problème. Les produits, dont près de 150, seront dans une deuxième zone, derrière un comptoir. Il y aura du cannabis séché, des huiles comestibles et des gélules. Mais si vous voulez là, des croissants aux potes, ce n'est pas pour maintenant, là, c'est l'année prochaine seulement. Le, te- Les aliments au THC devraient arriver plus tard en 2019 lorsque le gouvernement fédéral les autorisera. Une grande sélection sera offerte à moins de 7 $ le gramme, taxes comprises, afin de concurrencer le marché noir. La cible est de lui ravir au marché noir 30 % des parts de marché dès la première année. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Et il semblerait... Bon. J'essaie de lire et de parler dans le micro dans le même, en même temps. Bon, des fois, c'est un peu difficile. C'est pas partout au Québec qu'on en a. On a dans les grandes villes, la Société des alcools demande de collaboration. On en aura à Montréal, Lévis, Drummondville, Trois-Rivières, mais à Laval, il n'y en aura pas.
Ah!
Pour le 17 octobre. Là. Bon. Il va falloir venir à Montréal, si vous voulez. C'est pas tout clair. Où sera-t-il possible de fumer comme pour la cigarette? Même chose. Alors, les deux boucanes vont se mélanger. Là. Ça va sentir très bon dans ces coins-là. Par ailleurs, il y a un point qu'il faut souligner. C'est que les propriétaires de logements pourront modifier leurs baux qui sont en cours pour proscrire la consommation de marijuana à condition de le faire dans les 90 jours suivant la légalisation. Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas aux produits non fumés comme les huiles comestibles. Alors, ceux qui ont un bail, là, le propriétaire pourra apporter cette modification à ce bail. Quant à la police, on croit que le pot et le bloc de l'an 2000, c'est pas mal la même affaire, donc un pétard mouillé, parce qu'ils disent, on est prêt, quoique il y a un jugement qui a été prononcé récemment, là, où on a eu beaucoup de difficultés à faire l'analyse. L'analyse de l'haleine de la personne qu'on avait prélevé. Le cannabis au volant ne posera pas de problème pour la Sûreté du Québec, assure le porte-parole Hugo Fournier. Plus de 90 % des patrouilleurs du corps policier sont déjà aptes à repérer les conducteurs ayant les facultés affaiblies par la marijuana et l'organisation aura formé plus de 50 agents évaluateurs d'ici le 17 octobre. Ces derniers effectuent des tests supplémentaires auprès des conducteurs amenés au poste de police afin de compléter la preuve. Alors, on dit qu'on est prêt à la Sûreté du Québec. Le véritable défi de la Sûreté du Québec sera le cannabis de contrebande, mais ça ne change pas vraiment par rapport à ce qui existe actuellement. Ce qui pousse dans les champs, certes, mais aussi celui qui est vendu en ligne. Puis ça, mon collègue ici, Claude, me disait tout à l'heure que... Ouais. On pourra acheter le pot sur un site,
oui.
Ce qui n'est pas mentionné ici dans l'article que je vous lis dans l'actualité.
Oui, mais effectivement, apparemment, le site va être prêt en même temps que l'ouverture le 17 octobre.
Bon, OK. Le journaliste nous parle du principal fournisseur de pot de la SAQ. Ça s'appelle Exo. C'est une société cotée en bourse qui cultive son pot au bleuet dans l'Ontario, dans l'Outaouais plutôt, pas en Ontario, dans l'Outaouais. Le propriétaire veut convaincre Marc-André Savourin, celui qui a rédigé ce texte, dont je vous lis les bribes, là, que les néphins peuvent sentir le bleuet quand ils se promènent dans cette culture du pot, c'est une production industrielle. Mm-hmm. On dit que Exo, au cours des prochaines années, fera planer des Québécois en cultivant 20 000 kilos de marijuana dans trois serres en Outaouais. La plus grande couvre l'équivalent de trois terrains de soccer. Mais ce n'est rien comparativement à celle quatre fois plus vaste que des travailleurs construisent tout près. Alors, ils vont avoir des cultures de pot, surtout en Ottawa. Est-ce que le pot, c'est un nouveau Klondike? Est-ce que c'est par le pot qu'on va s'enrichir, que certains pourraient s'enrichir? Partout dans le monde, petits et grands investisseurs placent leur argent au Canada, qui est à peu près le seul endroit où il est possible d'investir légalement dans l'industrie du cannabis, souligne Martin Landry, analyste financier à GMP Valeurs Mobilières. L'intérêt est tel que la valeur du Canadian Marijuana Index, qui suit les 24 plus grandes entreprises du secteur au pays, a explosé de 180 % en un an. Ça inquiète certains observateurs qui estiment que le secteur est surévalué vu la petite taille du marché canadien.
Ah.
On ne vendra pas ailleurs. Puis attention à tout événement. Il est bon de noter que les cours du cannabis sont en chute libre dans l'État du Colorado. Depuis la légalisation en 2014, les producteurs ont vu le prix au kilogramme passer de 4136 $ à 1865 $ américains, un effondrement de 122 %. Alors, attention, ce n'est peut-être pas la manne qui s'en vient pour ceux qui investissent dans le cannabis. Un dernier point, c'est un peu... comment je peux faire ça, quelque chose d'un peu sors un peu de l'ordinaire, je n'étais pas tout à fait conscient de ça. De toutes les conséquences de la légalisation, voici la plus inattendue. Viviane Yargeau devra acheter un deuxième congélateur, le premier coincé dans une petite pièce de son laboratoire de chimie à l'Université McGill, ne suffit plus pour entreposer les bouteilles d'eau usée que lui expédient les villes de Montréal, Vancouver, Toronto, Halifax et Edmonton. Et pas question d'en jeter une seule. Leur contenu malodorant est au cœur d'un projet pilote de Statistique Canada pour étudier le cannabis. Contrairement au sondage, l'urine ne ment pas, dit la professeure de génie chimique. Quand une personne a fumé du pot, son corps rejette des marqueurs biologiques particuliers qui prennent le chemin des égouts. En mesurant leur concentration, Statistique Canada obtiendra un portrait rigoureux de la consommation de cannabis avant la légalisation. Et après le 17 octobre, comparer les ventes légales aux quantités détectées dans les eaux usées pourrait permettre d'estimer la taille du marché noir qui subsiste. On ne s'est jamais penché sur la question. Mais là, on se penche. Hein?
Ah ouais?
Ouais, c'est un peu fatigant. Hein?
Mais c'est intéressant
pour la madame,
quand même.
Hein? Ouais. Ouais, quand il y a un diplôme en chimie. Là.
Ah, quand même.
Elle est là, elle récolte.
Elle a un travail garanti.
Oui, c'est ça. Ça va vivre, c'est presque. Alors, il y a d'autres choses là-dedans. Là. Si vous voulez savoir comment ça se cultive, le pote, là aussi. Là, puis,
oui.
Ce qui se passe.
Donc, c'est dans l'actualité du mois de septembre. Du mois de septembre.
Oui.
Donc, article très intéressant. Et ça s'en vient bientôt, hein? C'est dans un mois, jour pour jour. On vous revient dans quelques instants avec Serge et ses petites leçons à retenir. Hein? Alors, Serge...
Oui.
C'est assez drôle, on a des danseurs en studio.
Oui.
On les voit de l'autre côté. Serge, c'est une poursuite, en fait, de l'article.
Qu'on avait commencé la semaine dernière pour dire que les Québécois connaissent-ils leurs droits, et pas vraiment, parce qu'il y a une note moyenne de 47 %. Les consommateurs échouent au test de Protégez-vous, la revue Protégez-vous, et de son partenaire Solutions Stat. Et l'analyse en est la suivante. Alors, c'est avec un score global moyen d'à peine 47 % que les Québécois ont terminé le grand sondage, alors qu'on avait établi la note de passage à 60%. Les consommateurs connaissent donc mal les lois qui sont censées les protéger contre les excès de la société de consommation, que ce soit la trop grande facilité d'accès au crédit, les sollicitations marketing incessantes, les contrats indéchiffrables, l'obsolescence programmée des biens, etc., etc. Il y a quelques raisons cependant de se réjouir, comme je le mentionnais la semaine dernière, mais c'est un petit rappel que je vous fais. Seuls 17 % des Québécois qui ont répondu au sondage ont obtenu un score de 60 % ou plus au bulletin. Parmi eux, une majorité a obtenu de justesse la note de passage. Un résultat décevant qui avait toutefois été pressenti par les experts interrogés. Les connaissances démontrées par les consommateurs dans certains domaines sont cependant meilleures que ce à quoi nos experts s'attendaient. Les gens connaissent le taux d'intérêt de base d'une carte de crédit, savent ce qu'est la garantie légale et sont au courant qu'ils peuvent être remboursés en cas d'erreur d'affichage d'un prix. Et s'étonne Pierre-Claude Lafond, professeur de droit à l'Université de Montréal, spécialiste du droit de la consommation. Maintenant, allons-y dans le détail. On aborde maintenant ici... Au niveau des garanties, connaissons-nous nos droits? Et le score moyen a été de 54 % obtenu par les répondants au sondage dans cette section. Alors, les garanties légales, conventionnelles, prolongées, les garanties prennent de nombreuses formes que les Québécois ont du mal à démêler. Le constat. Alors... Le flou entourant les garanties qui s'appliquent aux biens et services vendus au Québec n'est pas nouveau. Et les résultats de notre enquête le confirment. Les consommateurs confondent toujours les garanties légales, conventionnelles et prolongées. La garantie légale est encadrée par la loi sur la protection du consommateur et s'applique automatiquement à tous les achats de biens au Québec. Elle prévoit qu'un produit doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. La garantie conventionnelle, aussi appelée du fabricant, est offerte par le fabricant ou le vendeur d'un bien, alors que la garantie prolongée est souvent proposée par le commerçant. Et cette méconnaissance ne surprend pas les experts consultés. Pour Pierre-Claude Lafond, professeur de droit à l'Université de Montréal, il y a clairement une confusion chez les consommateurs et celle-ci profite aux commerçants qui peuvent être tentés de vendre aux clients une garantie prolongée sur un produit électronique qui est déjà couvert par la garantie légale et la garantie du fabricant. Alors, je ne sais pas si récemment vous êtes allé acheter un téléviseur ou un quelconque autre objet, eh bien, on va vous proposer une garantie prolongée. Alors que c'est déjà garanti. Il rappelle que les commerçants font souvent une plus grande marge de profit sur la vente de la garantie prolongée que sur le bien vendu. Ouais. Par ailleurs, la loi oblige les commerçants à informer les consommateurs de l'existence des garanties légales et conventionnelles, rappelle le spécialiste du droit de la consommation. Mais pourquoi un commerçant voudrait dire « Vous êtes déjà très bien protégé par la loi. Vous n'avez pas besoin de la garantie que je vous propose. Hein? » Ouais. Alors, cela va contre ses intérêts. Alors, si la garantie légale sur les biens achetés était de 2 ans, comme c'est le cas en Europe avec la garantie légale de conformité, Pierre-Claude Lafond croit que les consommateurs s'en souviendraient plus facilement et seraient moins confus. Ils seraient ainsi plus à l'aise de refuser la garantie prolongée qu'un commerçant leur propose. À noter qu'en Europe, certains pays prennent aussi en compte dans leur réglementation la durée de vie normale du produit si celle-ci est de plus de 2 ans. Le saviez-vous? Il existe une garantie contre les vis cachés d'une habitation. Cette protection est aussi appelée garantie légale de qualité. Elle protège les acheteurs d'une maison neuve ou existante contre tout vis caché, c'est-à-dire qui n'est pas apparent. Si un examen pré-achat par l'acheteur ou un inspecteur n'a pas permis de le découvrir, et si le vice existait au moment de l'achat, Éducalois rappelle qu'un vendeur est responsable du vice caché, même s'il ignorait son existence au moment de la vente. Au total, 58,3% des Québécois connaissent l'ensemble de ces conditions et la proportion est de 65% chez les consommateurs qui sont propriétaires de leur habitation contre 49% chez les locataires. 32% des répondants québécois qui détiennent un permis de conduire savent qu'une réparation sur leur automobile est garantie par la loi pendant combien de mois?
C'est une question, hein?
Combien de mois? Savez-vous qu'une réparation sur votre automobile est garantie? Alors, c'est 3 mois.
Ah.
Ou 5000 km, selon la première limite atteinte. La même proportion de conducteurs, 31,4%, ne connaissent pas cette règle et 11,5% pensent que les réparations automobiles ne sont tout simplement pas garanties. Ça vous dit quelque chose, tout ça?
Oui.
Et puis, on termine en disant qu'il y a un mythe à déboulonner à propos de la garantie légale. Un répondant sur 3 pense que la garantie légale est valable 1 an. En réalité, elle n'a pas de durée déterminée et varie d'un produit à l'autre. Ouais. Selon la loi, un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Hein? D'où vient alors cette croyance? Alors, les consommateurs confondent la garantie légale avec la garantie conventionnelle qui est proposée par un vendeur ou un fabricant et qui dure généralement 1 an, explique Jacques Saint-Amand, chargé de cours au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors, moins d'un Québécois sur 2, 49% connaît la garantie légale. Alors, tantôt, on va poursuivre, ou on peut poursuivre maintenant si vous voulez.
Oui, on peut poursuivre
curieux.
Quand même. Ouais.
Alors, au niveau des contrats, le score moyen est de 47%. Alors, je vous mets l'eau à la bouche, je reviendrai tantôt, OK?
D'accord.
Annuler un contrat. Changer de fournisseur de cellulaire, ouvrir un compte, Dans leurs relations contractuelles avec un commerçant ou une institution, les consommateurs ne sont pas toujours à l'aise, mais tout dépend de leur âge. Le constat. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, les contrats de téléphonie cellulaire n'ont pas beaucoup de secrets. 73 % des répondants issus de cette tranche d'âge savent, par exemple, qu'ils peuvent mettre fin à leur contrat de façon anticipée s'ils paient le solde restant sur le prix de leur cellulaire obtenu à 0 $. Ah. Chez les 55 ans et plus, seuls 53 % en sont conscients. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque
Parfait.
Chose.
Parfait. Ouais, les jeunes consommateurs sont également un peu plus nombreux, 53 % que leurs aînés, 47,5 % savoir qu'ils ne sont pas obligés de prévenir leurs fournisseurs de services sans fil lorsqu'ils décident de changer de compagnie.
D'accord.
Et vive la compagnie. Ah
ah. Ah ah. Bien conclu, Serge.
De vous?
Oui, on va aller un petit peu relaxer du côté musical.
Envoyez-nous.
Et tout de suite après, je vous reviens avec une première partie d'un article que j'ai retrouvé sur lapresse.ca.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coule et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en l'emportant. Bien, elles s'en vont comme les bateaux et soudain ça prévient comme un bateau qui revient et soudain il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien et ce n'est qu'une tourterelle.
On entendait Sylvain Dutu et Vincent Perani qui réinterprétaient « Ce n'est rien ».
Alors, on prend des fois, hein, on prend des rendez-vous médicaux avec un généraliste, on peut prendre un rendez-vous médical avec un dentiste, hein?
On peut aussi
avec un spécialiste. Hein? Alors, savez-vous si on peut, si c'est légal, d'enregistrer alors qu'on est en consultation avec le médecin?
Ben non, est-ce que c'est légal?
Eh bien voilà, je vais vous le dire tout de suite. Un papier que j'ai retrouvé de Marie Allard sur lapresse.ca. Et elle dit que plus que de 75% des Canadiens ont un téléphone intelligent selon Statistique Canada, et ça, ça a été relevé en 2017, donc l'an passé. Cela revient à dire qu'ils ont un magnétophone avec eux en tout temps. Hein? On a ça sur les téléphones intelligents, ben naturellement. Oui. Même quand ils consultent un médecin, ils l'ont à leur portée. Enregistrer un rendez-vous médical a ses avantages, puisqu'on peut réécouter des directives complexes, des fois, et les communiquer à son entourage. C'est vrai, hein? Mais cette pratique bouscule la relation patient-médecin, apparemment. Vous entrez dans le bureau du pédiatre avec votre enfant, vous ouvrez l'appli dictaphone de votre téléphone intelligent pour enregistrer la consultation, eh bien, rien de mieux pour que votre conjoint puisse le consulter plus tard, qui, lui, s'est absenté du travail pour le rendez-vous médical, naturellement, et qu'il entende les détails de la conversation que vous avez eue avec le médecin.
Eh oui.
Ce rêve est de plus en plus une réalité, apparemment. Mm-hmm. Aux États-Unis, au moins un patient sur 10 enregistre ses visites médicales avec ou sans permission, selon un communiqué publié en 2017 par le Centre de recherche et d'éducation sur le service de santé du Dartmouth College au New Hampshire. Et la majorité des patients, 69%, dont on parle, souhaitent pouvoir le faire d'après un sondage mené au Royaume-Uni. C'est-tu un droit? C'est-tu un droit du patient? Est-ce légal aussi? On dit qu'au Québec, si tu fais partie de la conversation, tu as le droit d'enregistrer, indique Maître Jimmy Lambert. Que l'autre personne veuille ou non, ça ne change absolument rien au fait que tu as le droit de l'enregistrer. Si tu ne fais pas partie, par contre, de la conversation et que tu laisses, par exemple, un crayon enregistreur sur un bureau, apparemment ça existe, je l'ai appris avec l'article, puis que tu quittes le bureau, ben là, ça devient carrément de l'espionnage, imaginez.
Ah ben oui.
Alors, c'est pas légal. Et un patient n'a donc pas besoin de l'autorisation de son médecin pour enregistrer la consultation à laquelle il prend part. Rien ne vaut toutefois la fameuse transparence avec votre médecin pour garder une bonne relation avec ce dernier. C'est très important. Eh bien, j'aurai dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai de sous quelles conditions il faut enregistrer et pour que ça reste légal ou si ça ne l'est pas. Alors, je vous donnerai 6 petits...
D'accord.
Mais le crayon enregistreur, c'est très connu, ça. James Bond n'utilise pas ça.
Désolé, je n'écoute pas James Bond. On s'en va directement à la deuxième partie de l'émission James Bond qui passait hier à la télé, justement. On vous souhaite une bonne matinée à tous.
Bon.
La soirée, j'avais pu y
dit call un taxi, c'est moi qui l'ai écrit. Il y a bien des belles gens, et elle avait des belles gens, un beau sourire, un beau petit chien, puis la crème de mort. La première fois que j'ai vu à ma mienne une la gorge, j'ai tombé en amour à l'auberge du Quai de la avec mon pic de guitare, il a pensé que c'était dit tout. J'ai eu le cœur brisé sur le pont Jean-Cartier, comme ma vieille guitare avec une corde qui vient de péter. Y'a bien des belles gens, et elle avait des belles gens, un beau sourire, un beau petit chien, puis la crème de mort. La première fois que j'ai vu à ma mienne la gorge, j'ai tombé en amour à l'auberge du Quai de la Loire. J'ai tombé en amour à l'auberge du Quai de la Loire.
Caillouche, l'auberge du Quai de l'Horloge.
Alors, Roger, un bulletin, on a quelquefois des bulletins, hein, quand on était jeune ou maintenant, oui, même si on fait des études, on a quelquefois des bulletins qui sont un peu difficiles à avaler, hein, avec les notes.
Oui. Ouais, un peu amer, oui. C'est sûr, sûr.
Mais là, ça...
Celui-ci fait honte, apparemment.
Oui.
C'est Alec Castonguay qui publie, qui publie la seconde édition de son bulletin des ministères, qui montre que malgré quelques progrès, près de la moitié des ministères planifient toujours mal ou pas du tout leurs actions et la gestion de leurs rencontres, de leurs ressources. Et parmi les cancres, l'un s'illustre avec un plan particulièrement lamentable, le ministère de l'Éducation. J'attire votre attention sur un aspect des commentaires qu'on peut lire sur le ministère de l'Éducation, si je peux retomber dessus. C'est pas là. Voilà. Demandez à n'importe quel passant dans la rue ce qui cloche par rapport au système d'éducation du Québec et il vous répondra dans le désordre: la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques, l'épuisement des professeurs, l'augmentation des enfants en difficulté d'apprentissage ou persévérance des garçons. Et pourtant, le nouveau plan stratégique du ministère de l'Éducation, le document qui guide le réseau, ne contient aucun objectif chiffré et mesurable à atteindre dans ces domaines. Figure respectée du monde de l'éducation, Égide Royer a été découragé par la lecture de ce plan dévoilé en mars dernier. Pour gérer un ministère, il faut des objectifs et des indicateurs clairs. On dirait qu'il n'y a personne dans le cockpit du ministère. Faire sourire un enfant à l'école, ce n'est pas un objectif, lance-t-il sarcastique. C'est un psychologue de l'Université Laval qui est très coté en matière d'éducation. Il se demande, entre autres, pourquoi le ministère de l'Éducation, qui dépense 2,5 milliards de dollars par année pour aider les jeunes au parcours rempli d'obstacles, n'a aucun objectif pour tenter d'améliorer leur taux de diplomation au secondaire, qui est de 33 %, c'est-à-dire le pire en Amérique du Nord, où la moyenne pour les enfants en difficulté est de 60 %. Il faudrait être capable de détecter ceux qui ont des difficultés de lecture avant Noël, lors de la première année du primaire, pour savoir qui a besoin d'aide. L'Ontario est capable de le faire. Pourquoi pas nous? En lisant le plan d'action 2017-2018 du ministère du Québec en du deuxième ministère du Québec en importance, qui dépense 19,3 milliards de dollars pour instruire la prochaine génération de citoyens, Martin Maltais, sommité en matière de gouvernance de l'éducation au Québec, admet avoir été en état de choc. C'est rempli de vœux pieux et de phrases creuses. Il faudrait arrêter de dire que l'éducation est une priorité et commencer à s'en occuper, affirme-t-il d'une voix tremblante de frustration au bout du fil. Autre personne consultée, celui-là c'est pas mieux au niveau des cégeps, parce que après avoir tourné la 46e et dernière page du plan stratégique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, a piqué une sainte colère. Pendant plusieurs minutes, celui qui dirige le regroupement des 48 collèges publics de la province a arpenté son bureau de long en large pour se calmer. Le ministère a fait un plan juste pour dire qu'il en a un. Il n'a plus de leadership. Ah. Dans le premier extrait que je vous ai lu, on parle de l'Ontario. Mais qu'est-ce qu'on a fait de si beau en Ontario? Depuis 10 ans, le taux de diplomation lors d'un parcours normal au secondaire dans les écoles publiques a bondi de 72 à 84 alors qu'il n'a pas bougé au Québec. Il demeure à 64 %Comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait lorsque, en 2003, Dalton McGuinty a été élu premier ministre de l'Ontario et il a fait de l'éducation sa grande priorité. Il a dit... Une équipe spécialement consacrée à la réforme ontarienne va se réunir toutes les 6 semaines et faire rapport au premier ministre et à son conseiller Gérald Butts. Les objectifs sont simples, les objectifs sont clairs, les objectifs sont mesurables. Il y en a moins de 40, alors que le plan stratégique du ministère de l'Éducation en contient 95. Le gouvernement McGuinty souhaite augmenter le taux de diplomation, la qualité de l'enseignement et valoriser l'école publique. Chaque école doit mettre en place une équipe spéciale d'intervention afin de dépister rapidement les élèves en difficulté et de combattre le décrochage scolaire. L'école est rendue obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans plutôt que 16. L'Ontario insiste sur l'importance de la formation continue pour les enseignants et celle-ci devient obligatoire pour ceux qui travaillent dans les écoles où les résultats des élèves sont inférieurs à la moyenne provinciale. Après avoir créé un ordre professionnel des enseignants à la fin des années 90, l'Ontario a commencé à mesurer leurs performances. La province a également mis sur pied un institut d'excellence qui évalue les programmes en fonction des meilleures pratiques reconnues par la science. La maternelle devient obligatoire dès l'âge de 4 ans. L'Ontario n'a toutefois pas de réseau comparable au cégep. Alors, c'est un système qui fonctionne. Selon la société de consultants McKinsey, l'Ontario possède l'un des 20 meilleurs systèmes au monde et plusieurs pays, dont les États-Unis, étudient présentement la révolution ontarienne pour comprendre comment notre voisin est parvenu à s'améliorer aussi rapidement. Alors, on a un exemple sous les yeux.
Un des 20 meilleurs, qui est juste à côté de nous.
Juste à côté de nous. On en a parlé lors du débat des chefs là, de l'Ontario. Ouais. On se comparait à l'Ontario, mais peut-être qu'on pourrait...
Mais ici, on a l'impression qu'on met un
de
peu
l'éducation.
Plus d'argent. Oui, ici, on a l'impression qu'on met un peu plus d'argent sur les bâtisses à rénover, je pense.
Oui.
Que l'éducation, c'est peut-être le problème. Là. On ne sait pas. On va revenir dans quelques instants avec Serge. Alors Serge, on poursuit dans la même veine en fait.
Ben oui, certainement. On parlait des téléphones. Alors, l'obligation pour les fournisseurs de services sans fil de vendre des téléphones déverrouillés ou de les déverrouiller sans coût additionnel est relativement bien assimilée. 57,3% des Québécois, tous âges confondus, sont au courant, et ce même si la mesure est récente, adoptée en juin 2017. L'information a été largement diffusée dans les médias l'an dernier, rappelle Pierre-Claude Lafont, professeur de droit à l'Université de Montréal, qui précise que plus de 40% de la population reste tout de même à être informée. Alors, il y a un mythe à déboulonner à propos de l'annulation d'un contrat. Au total, 32% des Québécois croient disposer d'un délai légal de 10 jours pour mettre fin à tout contrat. Or, il n'existe aucun délai fixe d'annulation pour la grande majorité des contrats, dit Pierre-Claude Lafont, ce qui est connu par moins de 14% des répondants. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça.
Non.
Alors, selon la loi sur la protection du consommateur, vous pouvez annuler un contrat dans un délai de 10 jours dans une seule situation. Écoutez bien ça. Si l'achat du bien ou du service a été fait auprès d'un commerçant itinérant, hein, un genre de vendeur de balayeuse, là,
ouais.
hein, qui fait du porte-à-porte ou qui possède un kiosque temporaire dans un centre commercial, par exemple. Cette exception de la vente itinérante vient ajouter une couche de confusion chez les gens, suppose Jacques Saint-Amand, chargé de cours au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Les consommateurs confondent également avec les fameuses politiques maison des grands magasins, comme l'abbé explique Pierre-Claude Lafont. Ces enseignes acceptent de reprendre un bien après 10 jours, même 30 jours, sur présentation de la facture, mais il s'agit d'une modalité contractuelle et non législative. OK? 100 $ ça c'est le montant mensuel maximal qu'un fournisseur de téléphone cellulaire est autorisé à vous facturer lorsque vous utilisez votre cellulaire à l'étranger. Au-delà de ce montant, il est tenu de vous aviser qu'il suspend ses services, à moins que vous n'acceptiez explicitement de payer des frais supplémentaires pour continuer à utiliser votre téléphone. Et seulement 11 % des Québécois connaissent cette limite des frais d'itinérance établis dans le Code sur les services sans fil du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications. Au total, 29 % croient qu'il n'y a aucun montant maximal et 45 % ne savent absolument rien.
Ah.
Le saviez-vous, vous? Vous pouvez louer un logement sans dévoiler votre numéro d'assurance sociale? Hmm? Saviez-vous ça, vous?
Non.
Eh bien, au total, 74 % des Québécois savent qu'ils ne sont pas obligés de fournir leur numéro d'assurance sociale au propriétaire du logement qu'ils souhaitent louer. Vous devez cependant le transmettre, bien sûr, à votre employeur, au gouvernement, si vous souhaitez recevoir des prestations du régime des rentes du Québec, ou encore pour obtenir un prêt d'études canadien, par exemple. OK? Ensuite, on poursuit avec un score moyen de 48 %. C'est pour la publicité et les pratiques de commerce. Le prix annoncé, paiement périodique d'un bien, programme de récompense et les pratiques de commerce ne cessent d'évoluer et les consommateurs peinent à suivre. Alors, on constate que les pratiques de commerce sont en constante évolution et les consommateurs doivent sans cesse s'adapter aux nouvelles stratégies marketing des commerçants. C'est le cas notamment en matière de publicité. Les Québécois semblent cependant assez bien informés sur ce qu'un commerçant est autorisé à faire ou non. Ainsi, 66 % des consommateurs savent, par exemple, qu'un détaillant ne peut pas offrir au client un produit différent de celui qui est affiché dans sa publicité, quel que soit le support promotionnel choisi, publicité télévisée ou radio, affiche dans un magasin, étiquette, etc., etc. Par ailleurs, plus de la moitié, 56 % savent que le prix annoncé pour une voiture neuve n'inclut pas nécessairement les taxes de vente, TPS et TVQ, hein, et un concessionnaire n'est pas non plus tenu d'afficher les frais de crédit associés à une offre de financement, ce qu'une moins grande proportion des Québécois, 46 % savent. Autre exemple, les offres de financement pour l'achat d'une voiture. Il est désormais possible de négocier un prêt d'une durée de 8 ou 9 ans, ce que le consommateur n'a cependant pas intérêt à faire, estime Pierre-Claude Lafont, professeur de droit à l'Université de Montréal, spécialiste du droit de la consommation. Il fera encore des remboursements alors que sa voiture ne vaudra déjà plus ce qu'il lui reste à payer. Le saviez-vous? Les points des cartes fidélité sont éternels.
Ah!
Ah! Ah ben au moins, il y a quelque chose qui est éternel. Hein? Alors, 6 Québécois sur 10 savent que l'administrateur d'un programme de récompense, Air Miles ou Aéroplan, par exemple, n'a pas le droit de limiter la durée de validité des points récoltés. Et depuis l'adoption du projet de loi 134 en novembre 2017, les compagnies qui administrent ces programmes ne peuvent plus offrir des points qui peuvent périmer à une date déterminée ou par l'écoulement du temps. Alors, nous devons cette mesure au feuilleton d'Air Miles. En 2016, l'entreprise qui gère le programme avait fixé une date de péremption des 1000 avant de se rétracter face à l'indignation des consommateurs. Alors, on a des points éternels.
Ouais, c'est bon,
c'est beau. Et il y a un mythe à déboulonner avant de terminer à propos de l'affichage d'un prix tout inclus. Près d'un Québécois sur deux, 48 % croit qu'un commerçant peut indiquer le montant des paiements périodiques d'un bien ou d'un service sans en mentionner le coût total. Par exemple, un réfrigérateur offert en 24 versements de 75 $ par mois. Alors, la loi sur la protection du consommateur interdit une telle pratique, quel que soit le produit. Le prix tout inclus doit être mis davantage en évidence que les sommes qui le composent, précise l'Office de la protection du consommateur. Et ça, vous savez pourquoi? Mmh. C'est que les gens ne savent pas multiplier.
Hein? Ouais, c'est vrai.
45 fois 12, ils ne savent pas que ça donne... Hein, c'est beaucoup mais d'argent,
pour
ça.
Pour les autos, c'est par semaine.
Hein? Ah, par semaine. Oui, par semaine. Alors là... Le commerçant peut cependant ajouter certaines sommes au moment du paiement, comme les taxes de vente, TPS ou TVQ. C'est beau?
Mm-hmm.
Et 45 % des néo-Québécois installés au Québec depuis moins de 5 ans savent qu'un commerçant n'a pas l'obligation d'accorder un bon d'achat différé à un client qui se plaint qu'un produit annoncé en solde soit déjà tout vendu. À peine 13 % des répondants néo-Québec le savent.
Ah! Ouais.
C'est étrange, hein?
Ouais. Étrange et intéressant en même temps.
Ben oui.
Hein?
Est-ce que c'est tout?
Ben, c'est tout pour l'instant.
On peut continuer, moi. J'en ai comme ça.
Vous pouvez continuer la semaine prochaine, par exemple.
Ah, là, oui, j'ai hâte.
Ah,
moi aussi. Il va faire tellement un peu plus frais.
OK. On vous revient dans quelques instants avec la suite de mon article que j'ai retrouvé sur lapresse.ca. Alors, la suite de l'article, en fait, sur l'enregistrement, est-ce qu'on peut enregistrer lorsqu'on est en consultation avec son médecin, généraliste ou spécialiste? Et l'article écrit ce qui suit aussi pour la suite. On dit, évidemment, les enregistrements doivent se faire sous certaines conditions. La docteure, Legrand-Westphal, dit que enregistrer toutes les consultations n'est pas nécessaire. Il y a des façons moins envahissantes de le faire, indique-t-elle. Le médecin peut, par exemple, offrir des documents qui passent en revue l'ensemble des risques d'une prescription, entre autres, ou d'un examen. C'est moins personnalisé, mais ça suffit dans bien des cas à la place d'enregistrer. Alors, sous quelles conditions doit-on enregistrer? C'est une question qu'on pose dans l'article. On dit qu'à moins d'être un espion dans un film, on parlait de James Bond un peu plus tôt, on n'enregistre pas dès qu'on met le pied dans une clinique médicale. Donc, voici 6 points à considérer avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de votre téléphone intelligent. On n'enregistre pas dans la salle d'attente. On ne doit pas enregistrer dans cette salle, ni en audio, ni en vidéo. Dans la salle d'attente d'une clinique médicale, selon l'Association canadienne de protection médicale, qui se titre ACPM. Même si les pitreries qui fait notre enfant mériteraient de circuler sur Facebook, les autres patients ont le droit, en fait, au respect de leur vie privée. Les médecins ont l'obligation déontologique et légale de protéger les renseignements personnels sur la santé de leurs patients. Ils doivent également protéger leurs employés. Solution alors? L'ACPM conseille aux cliniques et aux hôpitaux d'installer des affiches précisant qu'il est formellement interdit de prendre des photos et d'enregistrer dans les salles d'attente, les corridors aussi et un peu partout dans la clinique quand on n'est pas impliqué. Ça prend une discussion au préalable. Une fois dans la salle d'examen, le mieux est d'abord de discuter avec son médecin, je vous le disais un peu plus tôt, des motifs qui poussent à vouloir l'enregistrer. L'ACPM suggère aux médecins de chercher des solutions de rechange ou de limiter l'enregistrement aux portions les plus pertinentes de la consultation. L'association voit qu'il y a une valeur ajoutée dans l'enregistrement. Cela doit toutefois se faire de façon respectueuse. Nuance la docteure Lorraine Legrand de l'ACPM. L'association laisse au médecin le choix d'accepter ou de refuser une telle demande. Malgré un refus, le patient peut décider d'enregistrer quand même. Que le médecin veuille ou non, on n'a pas besoin de son consentement, indique Maître Jimmy Lambert. Autre point, poursuite ou plainte. L'enregistrement d'une consultation peut être utilisé lors d'une procédure médico-légale, ce dont les médecins sont conscients. J'ai entendu parler de gens qui enregistrent dans un but litigieux, rapporte le docteur David Lucier, gériatre. Quand il y a un conflit avec le médecin et que le patient veut enregistrer pour avoir une preuve, c'est sûr que le médecin est beaucoup moins réceptif, on s'entend? Enregistré ou non, on est toujours à risque de litige si on ne se comporte pas comme il faut, observe le docteur Éric Sauvageau. Si on n'a rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi on aurait peur d'être enregistré. Autre point, deux copies. Le médecin doit demander au patient une copie de l'enregistrement pour l'ajouter à son dossier médical, recommande la CPM. Si ce n'est pas possible, le médecin peut réaliser simultanément son propre enregistrement après avoir obtenu le consentement du patient. Tous les médecins ne sont toutefois pas prêts à archiver ces fichiers audio, qui sont très, très lourds, soit dit en passant, côté informatique. Et ce, en toute confidentialité. La solution de rechange, ben, ils doivent noter au dossier du patient qu'un enregistrement a été fait de telle heure à telle heure, durant lequel tel et tel sujet ont été abordés. Évitez aussi les réseaux sociaux. Partager sur les réseaux sociaux sa dernière consultation médicale est à proscrire complètement. On peut enregistrer un médecin pour porter plainte au Collège des médecins. C'est une preuve pertinente, indique Maître Jimmy Lambert. Mais si on diffuse cet enregistrement sur les réseaux sociaux pour dénoncer quelque chose, ça devient de la diffamation. Alors attention, poursuite. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne le recommande pas du tout. Même partager une consultation banale est à éviter. Cela arrive, bien sûr, des médecins contactent la CPM parce qu'un enregistrement ou une partie d'un enregistrement fait avec leur accord ou à leur insu a été placé sur les réseaux sociaux, ce qui leur cause une certaine gêne ou amène un certain élément de non-conformité, indique la docteure Legrand Westfold. Il y a possibilité de faire retirer de la circulation certains éléments, indique-t-elle. Mais ce n'est pas toujours facile. Autre point, l'avis du Collège des médecins du Québec. Ben, le Collège est au courant de cette situation qui est relativement nouvelle au Québec et n'a aucune politique qui encadre cette façon de faire par les patients, indique Cassandre Corbeil, coordonnatrice aux communications de cet ordre professionnel. Le collège croit qu'il est préférable que le patient décide d'enregistrer la consultation, aviser son médecin traitant, naturellement, par respect et par politesse. Si le patient agit sans aviser son médecin, il y a certainement une rupture du lien de confiance et la relation médecin-patient est certainement affectée. Alors aujourd'hui, on documente son humeur, ses repas, ses voyages, ses visites médicales. La presse a joint Luc Bonneville, professeur co-responsable du groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication organisationnelle à l'Université d'Ottawa pour parler de ce phénomène grandissant. On semble de plus en plus rapporter des cas où des médecins disent avoir vu des patients qui enregistraient l'entretien clinique. Aussi faut-il noter que des patients enregistrent probablement certaines de leurs conversations avec leur médecin à l'insu de celui-ci. Ce phénomène, on le voit un peu partout, à l'école, à l'université, au magasin, partout, partout. La généralisation du téléphone dit intelligent accentue ce phénomène que l'on observe et documente de plus en plus. Nous sommes de plus en plus photographiés, audio-enregistrés, filmés dans plusieurs situations sociales courantes, souvent même les plus banales. La pratique médicale n'y échappe sûrement pas. Et on dit en conclusion, est-ce que cette pratique bouscule le milieu médical? Je pense que le fait de voir de plus en plus de patients enregistrer le contenu de leur consultation médicale bouscule en effet le modèle classique médecin-patient. Comme l'enregistrement bouscule aussi le modèle classique enseignant et étudiant. Enregistrer, ce n'est pas uniquement un acte passif sans conséquence. L'enregistreuse en fonction est aussi un acteur de la relation, un intrus, diront certains même. Le fait d'enregistrer change parfois la relation. Enregistrer a le potentiel d'empêcher certaines personnes de faire leur travail de manière concentrée. C'est tout le problème. Et puis le sous-entendu, pour certaines personnes qui sont enregistrées, c'est que celui qui enregistre n'a pas entièrement confiance en celui qu'il enregistre. C'est lourd de sens et cela peut modifier l'acte de soin naturellement avec le médecin. Alors, vous voyez, différents points, donc il faut faire attention. Surtout, le point le plus important, c'est de se mettre d'accord avec son médecin pour l'enregistrer. Effectivement, ça peut être un bon aide-mémoire. Une petite brève, mon cher Roger.
Oui, le nombre 3, c'est le nombre de mois que risque de passer en prison un habitant de Bombay qui se fait prendre 3 fois à utiliser, à vendre ou à fabriquer des sacs, des ustensiles ou des emballages alimentaires en plastique.
Ah!
En juin dernier, cette ville de 22 millions d'habitants, tiens, a interdit le plastique à usage unique et l'ensemble du pays veut faire de même d'ici 2022.
D'accord.
Il y a une manifestation, je pense, à Montréal.
Oui, je pense.
Cette semaine là-dessus.
Tout à fait. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci Serge, merci Roger, merci à Maurice de l'autre côté de la ville pour la technique. On vous souhaite une excellente semaine. Mon nom est Claude Blas. Heureux, naturellement, de vous retrouver dès lundi prochain. On vous souhaite une excellente semaine.
Au revoir.
Au revoir.